Ok, bonjour à tout le monde. No parlaré francès, és una decepció. Jo sóc Marcel Barbens, ell és la Lluça Fiatou, ell farà la conferència en francès i jo aniré introduint alguns elements perquè així anar reconduint la xerrada, d'acord? El que sí que volia explicar-vos prèviament, a part del seu currículum i tot una miqueta i per què estem aquí, és el fet que aquesta conferència ens era difícil definir-la, i avui n'estàvem inclús parlant, ja l'hem fet, eh? Però després de les experiències i després d'estar conjuntament durant un mes i mig vivint junts i parlant-ne, vam decidir que era una conferència neta, tal qual, sense ingredients per poder fer reflexions més enllà del que cadascú pugui entendre del que la Lluc explicarà. No és una conferència, i aquí vinc amb els negatius, no és una conferència en la qual pugueu treure un contingut molt ampli d'alguna història, sinó que és una història personal. I al ser una història personal, el contingut que ella anirà explicant, penseu que és vivenciat en primera persona sempre. La Lluc és periodista, va estudiar dret a Guinea-Conakry, després us explicarà exactament on se situa això, i a causa de la repressió política que viu aquell país va haver d'exiliar-se dues vegades, i la segona ha sigut definitiva i no sabem fins a quant temps. Moltes de les imatges que veureu semblarà, o de les paraules que us dirà, semblaran carregades de dramatisme. No és la intenció. Penso que també la conferència està enfocada a gent que és adulta i que per tant pot comprendre sense populismes i sense voler ser dramàtics la força d'una història. Jo sóc Marcel, sóc una persona que treballa en el món de l'educació, i l'organització en la qual treballo també ha treballat amb la Lluc. Vaig ser professor seu a Senegal, i quan va arribar aquí, evidentment, ens vam comunicar i l'he tingut a casa, per sort, durant un mes i mig, i després ella acabarà d'explicar-vos la història del seu camí per aquí. Bon, Lluc, tu peux faire la présentation comme tu veux, c'est ta moment.
Merci. Comme il vient de dire, je ne parle pas bien catalan, mais je capte quelques mots. Je pense que la présentation est faite. Il ne s'agit pas d'étaler tout ce qu'on a fait dans la vie, mais le point principal, il en a déjà parlé. Alors, comme il vous l'a dit, la première des choses qu'on va faire, c'est de vous donner une idée, une situation géographique de mon pays. Je suis de la Guinée-Conakry. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce pays, mais c'est un pays de l'Afrique occidentale qui a six pays comme pays limitrophe. Il s'agit du Sénégal.
Ça va aller.
Voilà, il s'agit du Sénégal au nord, et du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Libézia, et la capitale fait façade avec l'océan Atlantique.
Bé, j'ai pu parler français, mais mon français c'est très mal, d'accord? Mon français c'est un français que j'ai appris à l'Afrique, il est mon professeur, et vous pouvez regarder qu'il parle bien le français, moi non plus. Merci beaucoup le professeur, merci toujours. Mais je pense que c'est mieux que je vais faire l'interprétation, pas la traduction, bien sûr, mais l'interprétation, d'accord? Il a raconté qu'il vient de Conakry, après on va parler de cet endroit d'ici, d'accord? Mais la question principale, c'est qu'il est africain, n'est-ce pas?
Ouais.
Il est africain, il est en personne, entre 20 000 personnes. 20 000 persones que arribé a l'Espanya cette année, vaig a canviar el català, perquè si no, al final, 20 000 persones que han arribat a les costes espanyoles des del juliol, era l'última dada. Ell és un mes, un sol, i per tant estem parlant de 20.000 històries cada 6 mesos que, de la gent que arriba aquí a les costes d'Espanya, de Catalunya o d'Espanya, en aquest sentit a les costes d'Espanya. I això volíem remarcar perquè tothom ve per algun motiu, no? I el motiu de l'Aliu veureu quin és, i no és el mateix que el de tothom, o sí, no? Depèn de la situació de cadascú. I ell volia posar-vos en context també amb Àfrica, no? Els valors d'Àfrica, les valors de l'Àfrica, la jeunesse, tout ça, eh? Que ets ja... Ok.
Alors, com ell vol dir, c'est une histoire personnelle que je vais raconter, mais qui pourrait vous donner une idée sur l'histoire générale de l'immigration? Mais avant, l'objectif c'était de vous situer sur mon appartenance, sur ma nationalité, sur mon pays. Alors, je vous parle de l'Afrique de façon générale. L'Afrique, pas comme on vous le souvent enseigne ici, l'Afrique est un pays qui a ses valeurs, est un continent qui a ses valeurs, qui est riche en ressources naturelles, à savoir la bauxite, le diamant, l'or et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, sur le plan climatique, c'est un continent aussi riche, mais qui a été déstabilisé par la colonisation, notamment mon pays, et qui fut une colonie française, dont les conséquences se répercutent jusqu'à nos jours. Et moi je n'aime pas souvent parler de l'ethnie, mais je suis de cette région, de la région foutanienne, du peuple. Je suis de l'ethnie peuple. Et mon pays est composé par 24 groupes sociaux qu'on appelle ethnies, c'est-à-dire des langues locales, il y a 24, suivant la conséquence de la colonisation sur terre, toujours. Ces 24 sont condamnés à vivre ensemble avec des civilisations différentes, avec toutes les pratiques différentes. La religion et tout ce qui s'ensuit était différent. C'était des communautés qui vivaient chacune dans sa localité. Après l'arrivée des colons, on a déstabilisé, on les a condamnés à vivre ensemble.
Pourtant, lui, tu habites dans un pays où il y a beaucoup de différentes ethnies.
Oui.
La chose ethnie, c'est une chose
très
importante dans un pays.
Oui.
Mais quelle est la différence entre les peuples et les autres? Pourquoi ça existe?
Et le peuple, c'est une communauté généralement de religion musulmane qui sont des éleveurs, qui s'intéressaient auparavant moins à la politique, qui pratiquaient le commerce et les bases, qui sont des nomades. Et si vous recherchez sur l'internet, vous verrez les peuples un peu partout à travers l'Afrique. Et qui ne s'intéressaient pas, qui sont des musulmans. Et il y a les Soussous, qui sont les populations de la Basse-Guinée, qui sont les autochtones de la Guinée. C'est-à-dire que la Guinée-Conakry, leurs appartenaient parce qu'ils sont les premiers occupants, qui s'occupent de la pêche. Parce que Conakry est une zone côtière, alors ces populations s'occupaient de la pêche. Il y a les Malinkés, qui se trouvent ici, dans la partie nord, qui sont un peu, disons, qui ont un lien avec les populations du Mali et du désert, qui sont aussi des commerçants, mais qui s'intéressaient beaucoup à la politique. Et les forestiers, qui sont là, qui sont des agriculteurs. Alors, de nos jours, nous nous retrouvons ensemble pour composer la Guinée, avec des esprits différents. Et chaque partie se sent un peu différent de l'autre. Les Malinkés qui ont toujours gouverné sont ceux qui pensent que sur le plan administratif, sur le plan politique, ils sont un peu supérieurs aux autres. Et le peuple s'est dit que je suis de ce pays, je suis né ici, je me connais qu'ici, j'ai mon devoir aussi de gouverner la Guinée, mon pays. Alors,
ok, le peuple c'est le plus nombreux à la Guinée, voilà. D'accord, mais jamais été dans le gouvernement. on va voir pourquoi. Hein, un peu, ça c'est seulement un peu d'histoire pour après arriver à le contexte de l'exil. D'accord? Mais on devait connaître un peu le contexte. Ok, on va commencer pour la colonisation, pour les jours que vous êtes libre. D'accord?
Voilà, comme je vous le dis, la Guinée fut une colonie française. Sékou Touré, qui fut le premier président, qui est un syndicaliste, qui a négocié avec la France avec une méthode un peu, une rupture brutale qui a conduit à l'indépendance de la Guinée, parce que la France avait l'intention de former la communauté des États de l'Afrique francophone, c'est-à-dire ces colonies, souvent suivant un contrôle administratif, suivant une dictée. Alors Sékou Touré n'a pas voulu accepter cela. Il y avait plusieurs chefs d'État africains qui avaient fait une réunion avant que ce projet ne soit exécuté. Ils s'étaient entendus pour dire non à ce projet de la France. Mais finalement, c'était la Guinée seulement qui a réussi, ou qui a eu le courage à dire non, qu'on ne veut pas continuer sous le tutelle de la France. On veut être un pays indépendant comme la France. On ne veut pas une coopération. On veut créer notre propre destin. Et cette idéologie a donné beaucoup de l'espoir au peuple de Guinée, qui finalement s'est transformé en un désespoir. Alors, c'est en 1958, le 10 octobre 1958, que la Guinée a pris son indépendance. Et lui, ce monsieur, fut le premier président de la Guinée. Il s'appelle Sékou Touré, c'est un syndicaliste.
Il était dans le pouvoir.
Pendant 26 ans, il a gouverné. Il était venu, il a apporté de l'espoir, son arrivée a apporté de l'espoir au peuple. Mais quelques mois plus tard, après son accession au pouvoir, il commence à considérer la Guinée comme étant sa propriété personnelle. C'est-à-dire comme un bien, comme tu considères ton téléphone ou autre chose, que c'est ça. Alors, il a isolé la Guinée, la France aussi a isolé la Guinée, mais lui, il a gouverné avec une main dure le pays pendant 26 ans. Il a fallu que plus de 1000, combien ?
Un million.
Un million de personnes partent en exil. Et ces 1 million de personnes sont généralement le peuple qui avait des relations avec la France, parce que le peuple ne voulait pas faire cette rupture. Les intellectuels peuples ne voulaient pas faire la rupture avec la France, comme Sékou Touré l'a voulu.
Quelle est la politique à ce moment?
C'est un communiste qui avait des relations avec l'URSS. Les États de comment
la Russie
et
les autres États. Ok. Et comme la Russie elle-même, il y avait des prisonniers, il y avait des goulags.
Voilà, le goulag tropical, le goulag, c'était la gouvernance avec les dictatures. Il a, la méthode que pratiquaient les Russes était l'exaction, était la séquestration, était une domination très forte des populations. Il fallait c'est-à-dire pousser aux populations, comme il aime le dire, que c'était un esprit nationaliste, que chacun travaille pour la nation, mais en réalité ce n'était pas ça. Sékou Touré a adopté cette politique à la Guinée, qui un pays jeune qui n'avait aucune expérience sur ce domaine, qui était là, qui était habitué à travailler pour les autres, mais pas dans ce sens.
Finalement, il fait une répression féroce du peuple, il crée les Campo Boiro.
Exactement. Voilà. Il y a eu 1 million de personnes déplacées. Les 80% de ces 1 million déplacés, exilés, je vais dire, sont de peuple. Et il y a eu plus de 50 000 prisonniers politiques dans une prison qu'on appelle les Campo Boiro, et où il électrifiait les prisonniers pour leur faire des aveux, pour leur faire reconnaître des choses qu'ils n'ont pas commises, des crimes ou des infractions d'ordre étatique qu'ils n'ont pas commis. Et il branchait même l'électricité au niveau des parties génitales, à la partie génitale de l'intéressé, y compris les femmes, je ne sais pas si partie génitale,
oui.
Hein, même des femmes, pour leur faire des aveux, faire des aveux, et cela a failli.
De quoi?
Excuse-moi.
Si.
Voilà. Ces gens, notamment, il y a un monsieur qu'on appelle Gianotelli, qui fut le premier secrétaire général de l'UA, de l'Organisation de l'Union africaine, qui fut parmi les victimes.
Ok, et ton papa à ce moment, parce qu'on commence ton histoire à ce moment.
Mon papa était quelqu'un qui travaillait avec obligation, qui conduisait, qui est un chauffeur, qui s'appelle Sadio Diallo. L'État lui exigeait de travailler, de faire des missions étatiques. Certaines de ces missions, il ne m'a pas encore dit, expliqué ce qu'on lui recommandait, mais il était en prison. Pour qu'il sorte de prison avec son maître, il a fallu qu'il fasse une mission que je considère qui se fait des reproches. Et je lui ai demandé de quoi il s'agit, cette mission, mais il ne m'a pas encore dit, expliqué. Alors, il a fait la prison, il travaillait, il conduisait pour le premier régime. Et finalement, c'est arrivé avec le régime de l'Ansana Conté. Pendant 26 ans, c'est que tous les décennies. Et l'Ansana Conté, qui est un militaire, qui est arrivé par un coup d'État, qui a fait un coup d'État, un cadavre, parce qu'il fallait que ces coutures les meurent pour qu'ils disent qu'il a fait un coup d'État. Il est venu avec l'espoir. La population est sortie pour acclamer. On a espéré qu'on a fini avec la dictature. L'Ansana Conté, en 1984, a proclamé le multipartisme, a un peu ouvert le pays sur, pendant une année ou deux ans. Il a ouvert le pays, il a organisé des élections, il a permis à ce que toutes les entités sociales, toute personne qui souhaitait se présenter à une élection ou faire un parti politique, qu'il le fasse. Donc ça donnait de l'espoir. Mais quelques années plus tard, lui aussi, il vient sur le point de se couturer.
Et ton papa, à ce moment?
Mon papa, lorsqu'il a fait le multipartisme, mon papa s'est retiré dans la fonction publique, dans la collaboration avec l'État, pour se mettre dans l'opposition. Parce qu'il y avait une persécution de son ethnie, qu'il supposait persécution. Et il s'est rapproché d'un opposant qu'on appelle Bamamadou, qui est un bon. Et il a perdu tous ses droits de l'ancien, comme ancien fonctionnaire de l'État, ancien travailleur de l'État. Et il a fait la prison aussi. Comment je vais dire? Il a fait la prison. Et ensuite, il ne lui a pas découragé de continuer la lutte avec, avec le pouvoir. Il a continué dans l'opposition et durant quelques années, ils sont arrivés à fusiller mon frère pour pouvoir décourager mon papa à revenir pour travailler pour l'État. Mais cela ne lui a pas encore découragé. Il continue toujours à travailler pour l'opposition. C'est une personne respecté dans sa communauté, c'est une personne qui a de l'influence au niveau de la communauté, c'est un leader d'opinion. Alors, s'il est avec l'État, ça peut apporter un point positif dans l'État. S'il se retire dans l'État, parce que l'année à laquelle, en 1998, ce fut les élections présidentielles qui ont été organisées, le parti au pouvoir a perdu les élections dans la circonscription où mon papa vit. Alors, ces élections ont été catastrophiques pour l'État. Il fallait maintenant synthétiser, sélectionner les gens qui ont conduit à la défaite du parti au pouvoir. Et ce fut les conséquences de mon papa, où on a fusillé, comme on dit.
Oui, oui, tiré en balle.
Voilà, ils ont tiré une balle sur mon frère.
Ok. Et après, ton papa a continué avec l'opposition.
Il a continué avec l'opposition.
Et quelle est la conséquence de ça?
La conséquence de cette continuation également, c'est fut mon tour, le 13 mars 2004, le jeune frère du garde-corps du président de la République m'a aussi agressé, il m'a donné un coup de machette, qui a conduit à la perte de mon bras. Mais avant, moi, j'étais souvent mineur, mais quand il y avait une manifestation, je prenais souvent les pancartes, je restais devant pour faire des réclamations, des libérations de prisonniers politiques, des choses comme ça, parce que je suis. C'était ça. Et c'est un militant du parti au pouvoir qui a fusillé mon frère. Vous me permettez de revenir sur ça parce que pour moi c'est important. Qui était un inspecteur de l'éducation au niveau sous-préfectoral. Après qu'il ait tué une balle sur mon frère, 2 mois plus tard, on lui récompense par une promotion. Il est devenu inspecteur préfectoral de l'éducation. Au lieu de faire la prison, au lieu de répondre de ses crimes, il a fallu qu'on lui fasse bénéficier d'une promotion. Et le jeune frère du garde-corps du président de la République, qui est l'ancien apporté, qu'on appelle Sambou, m'a agressé avec une machette et m'a amputé le bras. 3 jours, il a fait la prison. Et finalement, pour récompense de son action, on lui a recruté, on lui a inséré dans les rangs de l'armée. Il est devenu militaire au lieu de faire la prison. Il fait sa vie, il a bénéficié d'une promotion.
Ok, on va reposer en paix. Ouais. Tout le monde a compris ça? Comme si, comme ça? Ok. Je vais raconter un peu l'histoire pour faire que tout le monde soit avec nous, d'accord? Va, vaig a parlar en català, perquè no sé quina mania tinc de parlar en francès quan parlo amb la Liu. Ens vam conèixer en francès. La idea, la història, després de ser Couturier, que va ser un governant que va manar durant 20 anys, va haver-hi un cop d'estat, l'home va morir i va venir la Sana Conté. Amb la Sana Conté, el pare de la Liu, que treballava de xòfer amb l'antic govern, es va posar a l'oposició. Va posar a l'oposició i va militar a l'oposició. En aquell moment, el govern va disparar el seu germà per fer que el seu pare parés d'estar amb l'oposició. El seu pare era un líder de la província on ell vivia. Com que el seu pare no va parar i va continuar amb l'oposició i militant en contra del govern actual, una persona del cos de seguretat, del guardaespatlles del president, el fill del guardaespatlles del president, va apallissar la Liu. Conseqüència d'aquesta pallissa, la Liu va perdre el braç. Va estar en un hospital a Telimener, sí. A l'hospital de Telimener, amb un metge malinquer. I aquí ve una història, perquè també per això hem fet la introducció de l'etnicisme. Ell és pel, va estar amb un metge malinquer. El metge malinquer el va tenir a l'hospital, com hi ha el de jutge que hi ha a l'hospital d'ell?
Jo suis resté 3 jours.
Ell va estar 3 dies allà a l'hospital, i en veure que aquell metge no estava cuidant a la Liu, ton papà...
Il a fallu que mon papà me contacte un médecin Pearl a Conakry qui demande à mon papà de me transférer, de m'évacuer à Conakry. Et une fois à Conakry, ce médecin trouve que s'il y a une possibilité de sauver ma vie, il faudra amputer le bras. Et une décision très difficile à prendre pour mon papa. J'ai compris la situation et il fallait que moi je prenne la responsabilité de donner l'ordre à ce médecin d'amputer mon bras. Et il m'a soigné parce qu'il était peul, il était de la même idéologie que mon papa.
Ok, voilà. Com veieu, l'etnicisme és molt marcat. Finalment va poder anar un metge a Conakry, a la ciutat, i allà el metge de Conakry, que era de la seva mateixa ètnia, pel, no malinquer, li va dir que o li tallaven el braç o es moria, no? I això li van dir al seu pare. El seu pare, ell m'explicava això un dia emocionat, quan va arribar aquí després d'estar ja reposant un mes i mig, m'explicava que el seu pare li va demanar amb ell. Diu, què vols que fem, Maliu? Tirem endavant o no tirem endavant? Diu, la decisió és teva, viure sense un braç al lloc on ell vivia és dur, i després veurem que realment és dur, però era una possibilitat que ell devia afrontar o no. I la Liu va decidir que endavant, que ell volia viure, no? Mais quand tu as perdu le bras, Tu m'as dit une chose les jours qu'on était ensemble. Tu m'as dit une chose.
Voilà. Quand d'abord, je voulais faire une vie de médecin. Avant de perdre mon bras, je voulais être médecin. Mais quand j'ai perdu mon bras, j'étais gaucher avant. Je tirais avec la main gauche et je faisais tous les travaux avec la main gauche. Alors, il a fallu 2 ans que mon papa me conduise à l'école comme un enfant de 3 ans, de 5 ans. Et pendant que j'avais 15 ans, en 2004, j'avais 15 ans. Pendant 2 ans, c'est lui qui m'envoie à l'école. Et à la sortie, il vient encore me chercher pour pouvoir me prédonner une opportunité de m'insérer socialement et d'accepter la situation.
Ok. Et... aneu entenent? Sí? Ara sí? Ell va, finalment, el seu pare van decidir doncs, que a viure endavant i el seu pare va estar 2 anys amb ell portant-lo i tornant-lo a l'escola perquè l'escola se n'enfumien d'ell, el pagaven, és molt dura, no sé si algú ha estat a algun d'aquests països, però escolta'm, tothom s'enfum de tothom, no hi ha pietat en aquest sentit i és així, i és molt net. Pero sí que es verdad que él va a patir las consecuencias en aquel caso, ¿no? La cuestión es, si hay cosas que tu me has dicho el día que no te ensemble dans la maison, a la table, tu me dis, mais Marcel, le jour que j'ai perdu les bras, j'ai perdu
la aussi. Peur.
Voilà, ça c'est très intéressant.
J'ai perdu la peur, parce que depuis ce jour, pendant les 2 premières années, j'étais nerveux, je n'avais peur de rien, c'est comme si... J'avais un dégoût de la vie. Tous ceux qui faisaient peur à mon père ou à la communauté, moi j'avais l'intention, j'avais le courage de chercher à affronter ça. Et ce n'est qu'à mon arrivée à l'Espagne que je commence à ressentir un peu la peur que j'avais avant. Après que j'ai perdu mon bras.
Sigui, ell diu, vaig perdre el braç en aquell moment i vaig perdre la por també en aquell moment. I per ell és un símbol important, a partir d'aquell dia va començar, després de passar l'impàs de recuperació, va començar a ser periodista, ara ja ho explicarà, i va començar a enfortir-se, no? I a dir, escolta'm, vaig a defensar sobretot els drets dels handicapers, ¿vale? Però ell ha dit una cosa ara, que ja retomarem més tard, que és dir, no vaig tenir por més fins que vaig arribar a Espanya, fa 3 mesos que és aquí, ¿eh? Des dels que 18 anys fins a ara que en té Tiap Ben-Nef, però és de Ben-Nef.
No, jo soy proche de 30.
Proche de 30, c'est ça.
Le 22 décembre, je vais avoir 30 ans.
On te va feliciter, tranquil. Durant molts anys no ha tingut por. La por li ha tornat un cop arribat aquí. I això és una cosa que ell després explicarà, i que és molt interessant també de conèixer, que a vegades ens pensem que ja està, que arriba aquí la... No, la vida aquí comença a fer més por. Per què? Doncs ja ho sabrem després, no? També?
Davant.
Ok, on ets? On va començar la repressió política d'Addis Càmara?
Okay. Pendant 24 ans, la Sana continue a gouverner le pays avec une main dure. Autrement, l'espoir du peuple est devenu le désespoir. Lui aussi, il meurt. Un autre militaire qu'on appelle Dadis Camara, qui est un forestier, arrive avec le prétexte de dire qu'il a fait un coup d'État. Mais un coup d'État contre un cadavre. Et ce monsieur aussi a apporté beaucoup d'espoir au peuple. Parce que là, j'étais vraiment majeur. Je voyais, j'étais dans les activités politiques, journalistiques et tout. Alors tout le peuple, s'il était de passage, sortait pour être dans la rue pour lui acclamer. Mais quelques temps plus tard, il a prouvé ses intentions, comme tous les autres, de s'accrocher au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir. Et cette fois-ci, le peuple dit non, on en a marre que toutes les personnes qui arrivent avec des intentions ou des promesses d'espoir se transforme en des dictateurs, que toi tu ne vas pas rester. Donc, les forces vives, y compris la société civile, les partis politiques, de l'opposition, se sont retrouvés pour faire une marche pacifique. Ils se sont regroupés dans un stade qu'on appelle le 28 septembre.
Que és l'estadi que hem vist en aquelles imatges, sí? Els oposants polítics en aquest nou cop d'estat de Addis Càmara, que era el següent militar que va fer aquest cop d'estat, es van juntar i van fer una marxa pacífica i se'n va anar a un estadi que es diu 28 de setembre. D'acord?
I a l'arrivée dels oposants dans ce stade, il fut encerclé par des militaires, on a cadenassé toutes les sorties et on commence à tirer à balles réelles sur la foule. Les chiffres officiels disent que c'est 150 morts, mais moi ce que j'ai vu, parce que je suis allé vivre les faits, ce que j'ai vécu, c'est des chiffres qui ne valent rien. Ceux qui sont morts pour moi sont plus de 600 personnes, ce que j'ai vu.
Per tant, sí.
Les victimes sont généralement les pleurs. Si vous voyez les messages, les images, tous ceux qui pleurent, généralement, pleurent avec la langue poulard, comme on dit ça.
Oui, oui, les pleurs.
Voilà. Et chaque victime qu'on retrouve, parce que physiquement, on peut distinguer tel pourrait être peul, tel pourrait être malingué, tel pourrait être forestier ou autre. Alors, les peuls qui ont une identité un peu, qui ont un physique un peu différent des autres, la plupart des victimes furent peuls.
Per tant, després del Dadis Càmara va haver-hi una gran repressió i els oposants es van tancar a l'estadi 28 de setembre a la capital, a Conakry. Allà els militars van decidir, era l'oportunitat de carregar-se tota l'oposició. I van anar allà i van començar a disparar a tort i a dret. D'acord? És un dels fets pels quals és més conegut Guinea, llestimosament. I Guinea és un país meravellós, si mai hi podeu anar, la veritat. Però aquell fet va marcar la història i només es va salvar... Qui era la persona que était pas là?
Ce n'était que Alpha Condé. Parmi toutes les forces vives, ils ont préparé tout. Alpha Condé a pris son vol pour aller en France.
Mais qui est Alpha Condé?
Alpha Condé est l'actuel président qui a fait tout son temps en France, qui était un professeur de droit à Sorbonne.
Per tant, tota l'oposició estava allà i no sabem per què, des d'aquelles coses estranyes, el futur president educat a França, que era de l'oposició, en aquell moment no hi era.
C'est à trois jours avant la marche qu'il a pris son vol pour dire que les autres n'ont qu'à s'occuper du cas interne parce que il a duré dans l'opposition mais il était mal populaire par rapport à ses loups. Parce que mon ethnie, je n'aime pas souvent parce que j'ai des problèmes avec eux, parler de l'ethnie, mais les circonstances obligent que je le dise, mon ethnie est l'ethnie majoritaire. Plus de 50% de la population són de peul.
Més del 50% de la població són peul i mai hi ha hagut cap governant peul.
Voilà. D'acord? L'oposant qui peul avait travaillé avec l'ancien Condé. Mais qui est aussi aimé par son ethnie. Parce que le peul dit maintenant que durant toutes ces années, tous les autres ethnies sont arrivées au pouvoir, ont gouverné. Maintenant, nous aussi, nous devons conduire un de l'autre au pouvoir. Alors, il a fallu persécuter tous ces gens et massacrer les gens, violer des femmes publiquement. Et Alpha, après ces événements, a pris son vol pour revenir. Tous les autres opposants étaient à l'hôpital et ça fut catastrophique pour eux, hélas. Alors, quelques mois plus tard, l'aide de camp de Dadis Camara, Dadis est forestier, qui est un malinké, qu'on appelle Toumba Diakité, a tiré une balle réelle, a attenté sur la vie de Dadis Camara. Et ça conduit à l'arrivée de Sékouba Konaté, un autre militaire qui est aussi de l'ethnie malinké. Souvent, mon pays a des problèmes ethnie-ethnie, alors c'est pourquoi je le dis. Il est malinké. Il a promis des élections. Il était le deuxième vice-président du CNDD, qui était l'organisation des militaires qui sont arrivés au pouvoir. Il y avait un premier vice-président qui était Sissou, dont les forces n'étaient pas exactement ça. Alors lui, il a fait un coup d'état contre le premier vice-président pour occuper la place de Dadis Camara, sous la complicité de la communauté internationale, notamment la France.
Et ok, mais maintenant, à ce moment, tu es où?
J'étais à Conakry.
Voilà. Qu'est-ce que tu fais là-bas?
Voilà, j'étais journaliste. À cette date, j'étais journaliste. J'ai commencé par mon village. Mais avant, c'est ce qui m'a conduit à cela, après les deux ans de récupération et de réflexion sur une possibilité de reprendre ma vie, j'ai décidé de devenir journaliste pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. Et j'ai décidé de faire des études de droit à l'université pour pensant que je pourrais être une solution aux personnes sans défense. Parce que moi, et ce qui est arrivé à mon frère, ce qui est arrivé à moi et ce qui est arrivé à mes amis, à mon entourage, ils sont restés sans défense. Et je me suis dit qu'il serait important de faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas, des personnes qui se sont retrouvées ou qui pourraient se retrouver dans la situation dans laquelle moi je m'étais retrouvé.
Ok, et cette personne finalement, il organisait quelque chose, non?
Voilà, et Sekouba Konaté est resté pendant un an, il a réellement organisé des élections.
Voilà, les premières élections.
Voilà, pas les élections qu'il fallait organiser, mm-hmm. parce que j'ai fui observateur au compte de l'Union Européenne mm-hmm. pour savoir ce qui s'est passé. Alors, il a organisé des élections, comme il avait promis, va organiser des élections, même si ce ne sont pas les élections, mais c'est des élections. Il a conduit à l'arrivée de les premières aussi démocratiques, entre guillemets, les premières élections démocratiques. Il a conduit à l'arrivée d'Alpha Condé. Lui, Alpha Condé, au premier tour, avait 18% de suffrages valablement exprimés, comme ils aiment le dire. Et Selou avait 43% de suffrages au premier tour, parmi 24 candidats. Les suffrages valablement exprimés de Selou fut 43% et de Alpha Condé 18%. Alors, le deuxième tour fut organisé après plusieurs mois d'attente, plusieurs mois de camouflage. La loi dit que c'est 2 semaines au maximum que le deuxième tour devait être tenu. Mais il a fallu plus de 6 mois pour organiser le deuxième tour. Et ça conduit à l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Et il s'est déclaré être le Mandela de la Guinée. Et ça a suscité de l'espoir aussi, y compris pour moi, parce qu'il fut le premier intellectuel, un juriste, qui connaît vraiment les droits de l'homme, dont mon pays en avait vraiment besoin. Et quelques années plus tard, lui aussi, il commence la répression contre les journalistes, contre les opposants et contre l'ethnie peuple.
Finalment, estem ja pràcticament al final d'aquesta història política, que sembla molt de context, però perdoneu, les imatges, algunes són molt frapants, però aquesta és l'actualitat que passa avui en dia al seu país. És un país que està amb repressió constant política i sobretot de llibertat d'expressió. D'acord? I ara entendrem el per què l'Aliu està en la situació en la que està. Què va passar? Va arribar Alpha Condé al poder amb un 18% de recolzament popular. No? A la segona volta va guanyar, sabeu que a altres països hi ha una altra manera de fer eleccions, que hi ha una primera volta i una segona. Aquesta segona volta va guanyar i es va col·locar i va dir que seria el nou Nelson Mandela de la Guinea. Sí? Va entrar a Guinea amb paraules d'esperança, amb paraules d'obertura, venia de França, amb tots els governs europeus al seu costat. És una persona que coneix molt bé la llei internacional, que realment és un home fet per la política, i aquí la cosa es va començar a torçar. Sí que és veritat que és molt difícil governar Guinea quan hi ha hagut tants governs militars darrere. Sí? Això és un desavantatge per a algun polític nou que entra, en el sentit que caram, s'havia de guanyar l'exèrcit, s'havia de guanyar el poble, i és una situació molt complexa la que hi ha. Però bé, la situació és molt bèstia actualment.
Vous voyez des personnes qui ont des bâtons. Ce sont les malinqués qui sont protégés par les forces de sécurité qui sont en train de frapper les peuples.
No cal que mireu totes les imatges, però sí que m'escolteu, en el sentit que ell tota l'estona remet a malinqué, pèl, susú, forestier, les diferents ètnies que hi ha, d'acord? Ell sempre parla d'això perquè l'etnicitat a Guinea és molt forta. És a dir, aquí parlem de diferents cultures, de diferents països, de diferents, però no parlem d'ètnies. Allà l'ètnia és el seu país, és el seu poble, és la seva cultura, i és molt diferent a la del veí. I qui té el poder intenta mantenir-lo a per totes, amb la violència que faci falta. Vale, Aliou, tu peux continuer.
Cette image, par exemple, c'est son. Je n'aime pas souvent parce que j'ai des problèmes avec mon ethnie sur ce point d'ethnicité, mais les réalités m'obligent à le dire. Voyez qu'une personne, des civils qui sont munis de bâtons protégés par les forces de sécurité, qui sont en train de persécuter une partie de la population, comme si c'était des bêtes sauvages, aussi féroces qui entrent dans une ville. Alors, ça me pousse à dire des choses qui ne vont pas. C'est ce qui fait que je parle de peur. D'accord.
Ok, mais finalement, il y avait des assassinats ethniques en 2015. Et tu travailles comme un journaliste et tu as reçu des menaces pour... qu'est-ce que tu fais?
Voilà, en 2015, il y avait beaucoup de cadres peuls qui sont dans le parti de l'opposition. Souvent, on entendait des assassinats de telles personnes, des anciens ministres ou des activistes des droits de l'homme, des journalistes. Je me suis dit que qu'est-ce qui est réellement derrière ça? Parce que tous ces assassinats ne peuvent pas se faire en plein jour dans une capitale, dans un pays dit démocratique, sans qu'aucune enquête ne soit menée. Alors, moi, je me suis, en tant que journaliste, je me suis intéressé à cela. J'ai commencé à faire des investigations. J'ai appris que dans une prison d'une région qu'on appelle Kilia, un des bandits, un des anciens réclutés de l'État qui faisait des missions de l'État pour assassiner des personnalités politiques, fut arrêté et conduit à cette prison. J'avais un contact parmi les gardes pénitentiaires qui m'en a informé qu'effectivement, lui, il connaît la cellule où ce prisonnier est. J'ai, comme d'habitude, contre l'argent, je lui ai donné de l'argent et je lui ai remis un dictaphone pour pouvoir infiltrer le dictaphone afin de pouvoir entrer en contact avec ce gars pour pouvoir m'expliquer réellement quels sont ceux qui sont derrière ça. J'ai fait une liste de questionnaires, j'ai remis au garde pénitentiaire parce que je ne pouvais pas y entrer. Alors il a infiltré. Le gars n'a pas donné des noms exacts, mais il a donné des titres qui m'ont donné une direction pour savoir exactement à qui je dois aller poser des questions pour savoir quels sont ceux qui sont derrière ça.
C'est que finalement, l'Aliou, el que va fer va ser fer un treball periodístic sobre el que estava passant al seu país. Ell havia treballat amb ràdio, havia treballat amb diaris i es va començar a involucrar dintre del periodisme més polític. I això va tenir una repercussió. On va avançar en bé? La repercussió, la conseqüència de tot ça, c'est que finalment...
J'ai reçu des menaces. J'ai changé d'habitation en habitation, mais heureusement que j'étais aimé par et protégé par les jeunes du quartier, c'est ce qui a empêché qu'on ne mette main sur moi. Il y avait un journaliste avec qui je menais la même investigation, qui a été le premier, qui travaille pour une télévision, qui a été le premier à diffuser les premières informations qu'il a récoltées de sa sortie de la radio pour arriver chez lui. Il est porté disparu jusqu'à maintenant. Aucun n'en parle de lui. Mais quelques jours plus tard, on dit qu'on a retrouvé un corps qui ressemblerait à son corps. On a retrouvé son dictaphone, son ordinateur, son badge, sa moto, tout au bord d'une plage. Et alors, on m'a téléphoné pour me dire, est-ce que tu es informé, parce que je ne savais pas que cela lui est arrivé, est-ce que tu es informé de ce qui est arrivé à Chérif Diallo, qui est aussi un journaliste peul? J'ai dit non, mais à qui ai-je l'honneur? Il dit, cherche à t'informer de ce qui est arrivé à ton copain parce que vous avez touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Mais je me rappelle que le porte-parole de la police nationale à qui j'avais pris en interview sur ces assassinats, je l'avais interviewé, et il me dit qu'il y a une chose que je devrais m'occuper. J'ai un passé douloureux, que je devrais me préoccuper de ma situation physique et comment survivre que de m'intéresser à faire des investigations qui pourraient me coûter cher. Je lui dis que, est-ce que ce sont des menaces? Il me dit, non, ce n'est pas des menaces, mais je t'informe, ce sont des informations. J'ai dit, je ne fais que faire mon travail de journaliste, alors qu'il est de mon devoir de chercher des investigations. Et vous êtes le porte-parole de la police qui ont quelque chose à voir dans ces assassinats.
Pourtant, després del treball periodístic, companys seus de professió van ser assassinats i ell va finalment rebre amenaces de la policia
i ell va sortir
del país
Je réussis à travers mes contacts à sortir du pays sans pouvoir utiliser aucun dossier. J'ai perdu mon premier passeport. Je descends au Sénégal dans un petit village où j'ai connu Marcel et certains amis. Nous sommes restés là-bas à travers un contact français pour ne pas attirer l'attention des gens pour dire que je suis un exilé, pour pouvoir mener une vie un peu tranquille afin de pouvoir régulariser ma situation au pays qui finalement... J'avais un contact qui, un grand frère du chargé de communication à la présidence, qui a aussi, le ministre de la justice actuel, a fait ses études avec, dans la famille de ce monsieur, qui m'avait promis, on s'est connu à travers un interview aussi, qui m'avait dit qu'il a régulé la situation, que je peux rentrer au pays pour pouvoir ma famille, mais avec la condition de fermer la bouche et de ne rien dire de ce que j'avais entamé.
O sigui, ell es va exiliar a Senegal, que és on ens vam conèixer i on vaig tenir el plaer de ser professor seu durant 6 mesos, i al cap d'un temps, amb els contactes que tenia la justícia, va entendre que la situació s'havia calmat i que ell podia tornar a Guinea a veure la seva família i a tornar a intentar recomençar. Vale? I aquest va ser el primer exili, va ser una prova només.
J'y vais et je réussis à avoir un nouveau passeport à travers l'accompagnement d'Alvaro, qui est un journaliste espagnol, qui m'avait accompagné pour pouvoir me rassurer qu'on ne pouvait pas mettre main sur moi, ce n'était pas le moins de m'attraper. Et lorsqu'on a compris que je pouvais rester au village, je suis allé au village, resté là-bas pendant 2 semaines. Il y avait une réunion des jeunes et des associations de femmes qui voulait présenter un candidat indépendant au niveau des élections locales, qui ont appris ma présence dans la ville. Ils ont sollicité à ce que je sois la tête de liste à leur mouvement pour pouvoir avoir un candidat, c'est-à-dire un maire de commune, comme on appelle maire de commune. Voilà, un maire de commune, en catalan, alcalde.
Voilà. Ah, de la mairie, oui.
Voilà, pour pouvoir être alcalde, cette réunion m'a aussi conduit à un nouveau exil.
Voilà, c'est ça, vous êtes compris ça. Finalment va tornar a Senegal, a Guinea, amb la seva família, i va entrar en contacte amb un grup polític de l'oposició per intentar formar una llista de candidats de la seva regió. La nit abans que ell marxés va rebre una trucada en policia que ja
pelé. En gendarme. Que ja de contacte aussi, c'était mon contacte au niveau de la gendarmerie, qui m'a appelé pour me dire, écoute, demain matin à 6h, on va aller t'arrêter.
Demà a les 6 del matí et detindrem si no marxes.
Voilà, je lui ai dit que cette fois-ci, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent à te donner, parce que souvent, s'il me donnait les informations, c'était contre l'argent. Il me dit non, cette fois-ci, je ne te le dis pas pour l'argent, mais je te dis parce que moi, je fais partie des gens qui sont désignés pour aller t'arrêter demain.
Per això, ell va rebre les amenaces de que el dia següent seria detingut i va decidir, finalment,
on donne... Mon numéro 2, le numéro 2 de la liste, était déjà arrêté pour... On lui a exigé de faire des aveux pour pouvoir dire que je suis là pour faire un mouvement afin de pouvoir créer un mouvement populaire qui va conduire à la fuite des dirigeants. Et il a retardé à donner cela. Le gendarme a passé le téléphone à mon élément qui est arrêté. Il m'a confirmé que c'est quelque chose de très sérieux et si je ne bouge pas, lui, il ne va pas perdre sa vie à cause de moi. Alors, je n'avais que 6 heures de temps pour sortir de la ville, sortir du pays. J'ai pris une moto et mes dossiers. Je suis sorti pour aller. J'ai utilisé des contacts pour être dans le Sénégal sans utiliser la voie normale. Et j'ai téléphoné à ma famille pour leur faire comprendre que c'est qui prévaut.
Ok, donc finalement, per totes aquestes conseqüències polítiques de ficar-se ell en alguns a la política, va haver de sortir del país, i això va ser un exili forçat d'un dia per l'altre, amb el que tenia posat, va agafar una moto i va creuar la frontera sense cap document, que això a l'Àfrica encara és possible, va creuar pel mig de la selva, i perquè... Pourquoi tu n'as pas montré le passeport et rien comme ça?
On pouvait m'arrêter à partir de la sortie de la frontière.
Voilà, c'est ça.
Alors, j'avais des contacts au niveau des régions, ils connaissent bien le terrain, des endroits par où on peut passer sans utiliser des papiers. Il est allé tromper la vigilance des gardes qui étaient là, discuter avec eux. Ça m'a permis de trouver le passage de la nuit. Alors je suis arrivé au Sénégal. Le Sénégal aussi, j'étais aussi connu. Je m'intéressais un peu à la politique du Sénégal et c'est le même pays, la même culture, parce qu'il y a une coopération entre les gouvernances. Ce qui ne va pas à mon pays, si tu as des problèmes avec mon pays, tu pars au Sénégal, le Sénégal peut t'arrêter, te rendre au pouvoir guinéen. Et j'ai continué en Gambie parce que je supposais que la Gambie était un pays anglophone avec une civilisation différente. Et mais finalement, j'avais travaillé aussi, j'avais couvert des événements de la Gambie, je suis connu là-bas. J'ai réussi à vivre tranquillement pendant un mois, deux semaines, avant qu'on ne commence à menacer la famille d'accueil. Alors j'étais obligé aussi de ressortir, de revenir au Sénégal, oui.
Revenir au Sénégal. Non, les choses que tu fais, c'est être parti au Sénégal, et tu cherches le travail là-bas, oui. Après tu penses que c'est mieux d'aller à la Gambie parce que c'est un pays anglophone, tu penses que les pays qui sont anglophones, c'est plus civilisé,
oui.
Mais finalement tu es allé à la Gambie, mais rien à faire,
voilà,
non? Et tu es parti directement.
D'abord, je suis revenu pour sortir de la Gambie, pour
voilà.
Revenir au Sénégal.
Voilà, c'est ça.
Et je me suis dit d'aller à Mauritanie, qui est un pays arabe, mm-hmm. avec une civilisation différente. Peut-être que les choses pourront mieux aller. Et arrivé à la frontière de la Mauritanie, où j'étais obligé d'utiliser pour la première fois
les passeports.
Des passeports.
Ok. Pourtant, tota la història fins ara ha sigut una història contemporània del seu país, només per posar el motiu principal per qual ell va haver de fugir del seu país. Ell va pensar que Senegal i Gàmbia són països molt propers a nivell cultural i que allà podria trobar feina. Quan va veure que allà no trobava feina i va creuar totes les fronteres, inclús la de Senegal, la de Gàmbia, sense ensenyar un passaport, per por que la repressió que podia tenir del país de Guinea encara que s'extén a nivell de diplomàcia per arreu, i finalment va decidir anar a un país àrab, a Mauritània. Estan al costat, són dos països que es toquen, Senegal i Gàmbia, però són dos països absolutament diferents. I fins llavors ell podia haver circulat tranquil·lament per Senegal, per Gàmbia, sense cap dificultat, però quan va arribar a Mauritània, i aquí ve l'interessant també, va començar a trobar-se amb el que anomenem les fronteres d'Europa, sí? Perquè no és que Mauritània sigui Europa, però sí que Mauritània comença a posar fre a tota la immigració que ve d'Àfrica, d'acord? Ok, ja arriba la Mauritania.
A la frontera de Boïn-Falais, presentem el passport, a partir del moment que j'ai présenté mes dossiers, parce qu'on m'avait demandé de présenter mes dossiers, j'ai présenté y compris mon badge de journaliste, pensant que ça pouvait faciliter les choses. Ça a été catastrophique pour moi, parce que je n'avais aucune information sur la Mauritanie avant d'y aller. Alors, on m'a pris d'abord mon argent, mais j'ai réussi à entrer à Mauritanie, où je suis resté pendant deux semaines. J'ai essayé trois jours avant de sortir de la Mauritanie, parce que je voyais que les choses n'allaient pas. Je suis allé jusqu'à la frontière du Maroc, et on m'a demandé, avec plusieurs personnes, plus de 15 personnes, on était là, on nous a demandé de revenir à Mauritanie pour pouvoir prendre le vol afin d'être au Maroc.
És a dir, ell va arribar a Mauritània, que és un país islàmic. Fins ara ell vivia en un país on hi havia islamisme, on hi havia l'islam, on hi havia cristians, on hi havia animistes, no?
És
un país laic. I va arribar a la Mauritània, que és un país islamista. Allà els negres són considerats esclaus, sí? Tal qual. I si mai teniu l'oportunitat d'anar-hi, veureu que encara l'esclavatge existeix a Mauritània. La Liu va estar vivint en la Gare Routière 5 dies en l'estació d'autobusos, de taxis, i finalment va poder anar fins a la frontera de Mauritània. A la frontera de Mauritània es va trobar que va poder sortir, ell tenia un visat, va poder sortir. Què és que hi passa entre la frontera Mauritània i la frontera du Maroc?
Voilà,
què és que hi ha
d'abord? Nosaltres som allés d'abord, on a essayé de traverser la frontera du Maroc. On nous a demandé de revenir a Mauritanie, prendre le vol. Alors, il fallait acheter à nouveau un visa pour revenir dans la Mauritanie.
O sigui, entre la frontera de Mauritània i la frontera del Maroc, ell és una persona que tenia el visat de Mauritània i que a Marroc no li cal visat. No li cal visat. La frontera entre Mauritània i Marroc sé com hi ha quilòmetres, 100
quilòmetres?
O...
60 quilòmetres,
oui. Va,
5 a 7 quilòmetres.
5 a 7 quilòmetres, ok. Són 5 o 7 quilòmetres de terra de ningú.
Que és zona internacional.
Sí, una zona és una zona internacional. No hi ha res. Que està ocupada principalment per un poble que no sé si el coneixeu, que són els saharauis, principalment, eh? Però sí que és veritat que hi ha molta gent que viu allà, entre fronteres, en un lloc internacional, on la llei que impera és el dret internacional. Recordem que la Liu va estudiar dret, i ara veureu per què ho remeto una altra vegada, però l'interessant, la història dramàtica és que en aquells 5-7 quilòmetres hi viu gent atrapada perquè la Liu tenia diners a la butxaca, però hi ha gent que no té diners per tornar a entrar a Mauritània i es queda entre fronteres, sí? Allà, al desert del Sàhara.
Alors, on nos ha bloqué, j'ai échangé avec les migrants qui étaient là, ils n'avaient pas d'argent, j'ai vu les casques bleus.
Va veure els cascos blaus,
voilà.
Sí?
J'avais mon carte de journaliste, mon badge d'observateur au compte de l'Union Européenne, qui est une institution internationale. Je me suis dirigé, parce qu'il y avait plusieurs gens qui n'avaient ni eau, ni nourriture. Pendant plusieurs jours, ils vivaient là, et je me suis dit que eux, peut-être ils peuvent avoir peur d'aller voir cette organisation, cette institution internationale. Moi, je me suis dit que je vais aller plaider leur faveur pour pouvoir venir en assistance à ces personnes qui sont en train de souffrir là pendant des jours, sans pouvoir manger, sans boire et rien.
Ell va pensar que el millor que podia fer era contactar amb els cascos blaus, que patrullen per aquella zona, i reclamar els drets internacionals que allà haurien d'imperar per ajudar tota aquella gent.
Voilà, je suis allé, j'ai rencontré un monsieur qui était arrêté là, qui se présente comme de nationalité malienne. Je lui présente mes badges, je suis journaliste et observateur des élections au compte de l'Union Européenne. Je lui fais comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvions. Moi, j'avais déjà mon argent en poche, ce n'était pas pour ma situation. Il m'enseigne qu'ils ne peuvent rien faire pour nous et automatiquement, ils rentrent dans leur voiture, ils allument la voiture et ils quittent les lieux. Je me retourne pour dire aux autres qu'il n'y a pas de solution parce que c'était la seule solution qu'on pouvait obtenir, c'était ces gens-là. Alors, ils nous ont abandonnés. Moi, je ne peux pas rester là, souffrir. On va marcher tous pour aller essayer de rentrer à nouveau en Mauritanie.
Finalment va intentar contactar amb els cascos blaus, intentar una solució, no va poder, i ell va tornar a pagar una altra vegada, que aquí ve la trampa mauritana, va haver de tornar a comprar una altra vegada la visa. Per tant, 50 euros més, 50 a la primera, 50 a la segona,
voilà.
I va tornar a entrar a Mauritània.
Nous revenons à la frontière de la Mauritanie. Je voulais pas abandonner les autres. On a essayé, j'ai compris que je ne peux pas passer, même y compris moi, parce que j'ai aussi voulu utiliser ma situation d'handicapé, parce que mes cartes ne peuvent rien servir, ma situation de personne handicapée, pour pouvoir au moins payer pour une personne. Et ça n'a pas servi. Je leur ai dit, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, moi je ne peux pas vivre là avec vous, souffrir comme vous souffrez. Moi j'ai payé pour rentrer à nouveau en Mauritanie. Et finalement, pendant les jours, les 5 jours que je vivais à la gare routière, il y avait un restaurant, une femme qui gérait un restaurant par terre. Je ne sais pas si tu as une idée sur les restaurants de la Mauritanie. Qui était là, où je partais acheter souvent à manger, avec laquelle je suis entré un peu en contact, qui me dit, finalement, au lieu de dormir à la gare routière, quelqu'un me donnait une maison, il peut me donner la nourriture, parce que mon argent aussi était fini. Alors, c'était une opportunité. J'ai accepté de vivre avec elle, mais en contrepartie, faire le sexe avec elle.
Sí, ho heu entès, això. Ell va tornar a la capital de Mauritània i allà va conèixer una dona que li va dir, pots venir a casa meva, jo et donaré un llit, no? Jo et donaré menjar, a canvi de tenir sexe amb tu. Sí? Ell va estar... Com hi ha de tant que arresté la va?
Jo estic resté aproximadament 2 setmanes.
2 setmanes fent d'esclau sexual, directament, per sobreviure.
C'est une femme qui avait 50 ans et plus. Mais obligation exigée, parce que je ne pouvais pas vivre là sans manger, il n'y avait rien, et dormir dehors, et c'était une façon d'être un peu protégé, le temps pour moi de pouvoir contacter mes connaissances, pour pouvoir trouver quelque chose.
Et va... Non. I això va estar dues setmanes allà vivint, i finalment, tu es en train de sortir, mais quand tu fais ça pour sortir?
Voilà, mon grand frère a su que j'étais là, il a vendu une moto que je l'avais aidé à acheter. Pendant que je travaillais, il a vendu la moto. J'avais connu un jeune qui a fait beaucoup de temps en Mauritanie, qui connaît mieux le terrain, qui a accepté de faire un deal avec moi pour dire qu'il est dans une autre région. Il a parlé, il parle l'arabe de la Mauritanie, qui dit que oui, il veut, m'invite à aller chez lui dans l'autre région juste pour une nuit et je vais revenir avoir la femme. Il m'avait déjà acheté un billet d'avion. Et j'étais obligé de laisser certaines de mes affaires chez la femme pour qu'elle pense que je vais revenir. Parce que si elle savait que je devais sortir de la Mauritanie, elle pouvait me créer un problème.
Alors, o sigui, el que va ser enganyar-la. Va enganyar la seva dona, amb la que estava vivint, i el que va fer va ser comprar amb la moto que es va vendre al seu germà, va ser comprar un bitllet d'avió. I va enganyar la dona dient que se n'anava a veure un amic i va poder fugir. Et finalement, tu as pris l'avion.
J'ai pris le vol avec l'espoir, je descends à l'aéroport du Maroc.
Avec l'espoir toujours, hein?
Voilà, je descends dans l'aéroport. J'ai oublié que j'avais mis, quand je rentrais en Mauritanie à nouveau, que j'avais mis ma carte de journaliste dans le passeport. J'arrive, je tends directement le passeport à la police de la Mauritanie qui était à son bureau. Il ouvre le passeport, il me regarde, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, tu es journaliste? J'ai dit oui, mais journaliste sportif. Il dit, bienvenue monsieur le journaliste. Tu travailles pour quel média international? J'ai dit non, moi je ne travaille pour aucun média international. Parce que j'ai vu son visage, ça m'a fait comprendre que la situation n'est pas bonne. Il est sorti, il a fait un cachet, il m'a demandé où je pars, le numéro de la rue, mais j'avais déjà vérifié tout ça sur internet. Je connaissais Fès, c'était la région culturelle du Maroc. Alors j'ai donné Fès, j'ai donné le numéro de la rue parce que j'avais tout. C'était mon intention d'y aller. C'était à Fès. J'ai donné toutes les coordonnées. Et il sort de son bureau pour pouvoir m'accompagner. Il part discuter avec une femme qui avait des numéros de téléphone quand vous sortez de l'aéroport. Vous arrivez dans un pays, on vous octroie souvent des numéros de téléphone. Il a parlé arabe à la femme a écrit quelque chose, ils ont pris une puce, un numéro de téléphone, ils m'ont donné, ils ont mis dans mon téléphone. J'ai dit alors je pars à Fès, il dit qu'il va m'accompagner, je prends un bus, je prends le train. J'ai dit je prends le train, il m'accompagne acheter, il abandonne son poste, il m'accompagne acheter le billet pour le train, il s'arrête là pour que je monte au bord du train. Et finalement, arrivé au bord du train, j'avais peur. J'ai sorti la puce, j'ai laissé dans le train. Arrivé à la première station de la sortie de l'aéroport, je reviens, je prends un taxi, je reviens, au centre-ville. Je prends un bus, j'avais un contact dans une région au sud, à Essaouira, un petit village de 300 habitants.
Voilà. Va arribar a Marroc amb tota l'esperança, sí, va arribar allà amb l'avió i amb tota l'esperança perquè sabia ja era pràcticament l'última etapa, sí? I allà la policia li va donar una targeta telefònica i tot, vull dir que no sabem molt bé per què, ell li va posar dins del seu telèfon, el va acompanyar al tren molt amablement i au, i cap tranquil, vés a fer el teu viatge per Marroc, no? Ell en aquell moment amb la confiança que tenia es va transformar directament en por. Què vol dir això? No? És un control absolut de la població que arriba per saber exactament què està passant. Bueno, finalment va anar a Essaouira, allà va descansar un temps.
Je rencontre un monsieur qui m'a enseigné c'est quoi le Maroc. Heureusement que j'ai rencontré ce monsieur parce que ça allait être fatal. Il m'a fait comprendre que je n'ai pas porté confiance à aucun Marocain que je rencontrais. Et au départ, ça m'a paru bizarre, mais un soir, il revient avec précipitation, il me dit, tu dois partir. J'ai dit, partir où? Il dit, tu dois partir d'ici. J'ai dit, demain, c'était à 18h, 19h, Il dit non, c'est maintenant que tu vas partir. Je dis alors là, tu vas me laisser le temps d'aller donner au revoir à quelques amis. Il dit ne donne au revoir à personne. Je dis, il me dit qu'il a des problèmes. Je dis, tes problèmes sont liés à ma présence ici. Il dit non, je ne t'explique rien. Et si tu pars, coupe le contact avec moi. Alors,
això comença a ser una història de Marroc on realment va començar l'Aliu, tot fins ara havia sigut anar. Quan va arribar a Marroc va començar a veure que havia de viure allà i que la confiança amb la gent, amb les persones, es començava a trencar. I viure en una situació amb desconfiança durant un any i mig que va haver d'estar al Marroc vivint va ser el resultat de tenir una desconfiança amb l'ésser humà molt important. I va començar amb Ezaouira. Ezaouira va estar molt bé amb un amic comú que teníem, va estar tranquil i va haver un dia que va haver de marxar. Per què? Doncs perquè en aquell moment en el poble segurament era l'únic negre que hi havia i la gent començava a parlar malament d'ell. El company no volia tenir problemes i el va botar.
Alors je bouge de la... il prend la voiture d'un de ses amis allemands, anglais, il met à sortir du village dans la voiture, il avait contacté un autre ami de lui parce que c'est un endroit touristique. Français qui m'a aidé à sortir du village, je suis arrivé à Marrakech, il m'a demandé d'aller voir là où il y a une fête pour attendre que ça fasse pleine nuit pour pouvoir aller à un hôtel. Je pars, je fais comme il m'a dit. Finalement, il me dit, tu es à l'hôtel, coupe tout contact avec moi. Ne me contacte plus, même si tu vas m'écrire, envoie-moi un mail, mais ne me contacte plus par ton téléphone.
Ok, tu es arrivé à Rabat et tu habitais là-bas dans une chambre avec...
Des migrants, avec 8
personnes plus,
ouais.
Dans un endroit que c'est...
Oui, c'est un espace des migrants, parce que j'ai connu Marcel.
Pas moi, un autre.
Voilà, un autre Marcel, un Camerounais. Qui est aussi avocat, qui a fait beaucoup d'années au Maroc, qui connaît bien le Maroc, il m'a dit, donne-moi tous tes papiers et tu dois aller vivre avec les migrants. Ça m'a paru bizarre, mais finalement, c'était la seule personne à laquelle je pouvais. Je ne la connaissais pas, mais il fallait au moins avoir confiance à une personne, parce qu'il m'a paru la personne la plus honnête dans mon entourage. Je lui ai laissé tous mes papiers, il dit, y compris ton passeport. Je lui donne mon passeport, il dit, il m'indique où se trouvent les migrants, il dit, va chercher à vivre avec eux, tu te comportes comme migrant.
Ok, après Rabat,
et
finalement,
nous sommes débarqués à Rabat, nous sommes allés en forêt, dans la forêt de Kassiago.
Ok, la forêt de Kassiago, c'est ça, c'est ces images. C'est pas Kassiago, c'est le Guruguru, mais c'est le même. C'est des images de la forêt où habitent les immigrants avant de partir sur la, comment on dit ça, sur les murs.
À la barrière.
À la barrière, c'est ça. À la barrière pour traverser à Ceuta ou à Melilla, il y a les deux.
Oui, oui.
Aliou va raconter un peu comme c'est la situation là, parce que c'est une situation différente de le Maroc. C'est une situation
différente. À Rabat,
oui.
Il y avait des jeunes qui me connaissaient déjà en tant que journaliste qui ont cru que je suis là pour faire des investigations. Ils m'ont reconnu. Alors je suis parti, c'était des Guinéens. J'ai décidé avec un Malien de partir vivre avec les Camerounais qui ne me connaissaient pas. Nous sommes allés là-bas, mais ils ont vu un peu mon français, ma façon de vivre. J'étais là, contrôlé, je ne pouvais pas sortir. Ils m'ont pris mon téléphone, m'ont dit que tu peux rester là. Ils ont délégué deux personnes qui, même s'il faut aller faire mes besoins vitaux, c'est-à-dire aux toilettes, au cabinet, il fallait que ces personnes-là me surveillent pour ne pas donner des informations à l'extérieur comment ils s'organisent.
Ok. À la forêt de Kassiago, i ara vaig a parlar en català, és una muntanya que hi ha al costat de Melilla. ¿Sé Melilla, la Kassiago?
No, Kassiago és Ceuta.
Ok. És un bosc que hi ha al costat de Ceuta on viuen tots els immigrants que van a travessar el mur. D'acord? Sí, és veritat. On viuen els immigrants pobres, els que volen travessar el mur. Perquè els rics, i són rics perquè han de pagar 3.000 euros, van en barco, amb la patera. Aquells que arriben amb patera són els que tenen pasta, o els que l'aconsegueixen. Sí? Els pobres són els que viuen en aquest bosc i que intenten saltar la tanca. Allà a Surga, allà la Liu va arribar i va conèixer els camaronesos. Hi havia els guineans, s'organitzen per ètnies una altra vegada. El que és el rei, que en diuen ells, és el més fort. Torna a haver-hi, però el més fort de centenars de persones. Sí? Aquell és el que mana. I la llei és ell. El més fort és ell. La Liu tenia por, quan va arribar allà, amb tota la seva història guineana, de l'exili, de trobar-se gent, perquè és com Girona, no? Una petita província guinea on tothom es coneix, i tenia por que un contacte portés a un altre contacte, i que això pogués fer mal a la seva família. Sí? Per tant, va decidir no anar amb els guineans, sinó anar-se'n amb els camaronesos. Els camaronesos van dir, d'acord, et pots quedar amb nosaltres, però tens la llibertat limitada, no pots sortir d'aquí, si vas a pixar has d'anar amb algú acompanyat, si vols fer qualsevol cosa has d'anar amb algú acompanyat tota l'estona. Perquè els camaronesos no s'enfiaven al pensar que ell era periodista o podia ser un infiltrat. Hi ha molts infiltrats dintre d'aquests boscos. Ja va recontar amb P+. Hi ha de moment que hi ha la gendarmerie marocan que arriba, je ne sais pas si chaque jour, mais chaque semaine.
Généralement, chaque 6 heures du matin.
Ok.
Généralement,
voilà.
Chaque 6 heures du matin, ou chaque soir, ils arrivent et ils détruisent tout ce qui est, ils prennent tout ce que les gens ont, téléphone, nourriture, tout ce qui est, ce qui peut les servir, ils ramassent tout et ils frappent les gens comme des animaux. Alors il faut aller à la montagne pour pouvoir se casser là-bas et rentrer dans, comment on appelle, les épines. Un arbre qui a des épines, il faut aller s'infiltrer là-bas pour ne pas se faire prendre par la police, parce que sinon ça peut être fatal.
Aquestes imatges que esteu veient són d'un film que us ho recomano moltíssim, que es diu Les Sauters, jo no sé pas si ho pronuncio bé, que són d'una productora de Dinamarca que va donar una càmera a un reporter que estava vivint en el mateix indret que va viure la Liu i que va gravar tota la vida que feien allà aquesta gent. No? Finalment la Liu, després de moltes setmanes, je ne sais pas de moi,
un mois de semaine, avec
les Camerounais. Després d'això, ell va haver-hi una nit, hi va haver una nuit, que és qui et vas? Après un mois de semaine, hi va haver
una nuit. Une nuit, on nous demande tous de nous réunir dans le noir, on se réunit, on dit qu'on va partir à la frontière. On va aller pour
à la barrière
pour essayer de rentrer à Séoul. Et c'était la première fois parce que avant que je ne vienne, je supposais que tous ceux qui faisaient la migration clandestine, c'était des gens qui ne voulaient jamais faire du sérieux dans leur vie, c'était des gens, c'était des délinquants. Mais parmi eux, il y a toute nature de personnes. Nous sommes partis et il y a des gens qui ont vraiment un grand cœur. Alors, nous sommes partis avec l'assistance de quelques-uns, nous sommes allés à la barrière, nous sommes arrivés là-bas dans les environs de 2h, 3h, et arrivés là-bas jusqu'à 6h du matin, ils sont en train de frapper les gens avec des machettes, avec les chiens, et tout. Et finalement, lorsque le matin il commence à faire jour, on prend tous ceux qui sont blessés graves ou ceux qui sont morts, on les met à côté pour ne pas que les passants, parce que il y a la voie terrestre qui sort de Ceuta et les institutions, les ONG peuvent apercevoir les choses. On casse tous ceux qui sont morts ou ceux qui sont blessés. On présente au niveau de la rue ceux qui n'ont pas beaucoup des égratignures ou des problèmes.
La Liu va explicar que la nit aquesta que ells es van llevar, que va haver-hi després d'un mes i mig, van dir, vinga, ara és el moment, aixequeu-vos i anem, no? D'anar tot el campament, centenars de persones, per això sortien al principi les imatges, aquella creu que buscaven, es veien tot de personetes que anaven caminant, això era la policia que controla tots els accessos a la barrera. Centenars de persones d'aquell bosc es van aixecar i van anar caminant cap a la barrera. Quan van arribar allà a la barrera, la Liu s'ho va mirar, de dalt a baix i va dir... jo no pujaré pas, ho tenia claríssim, va veure que era impossible saltar allò i en aquell moment va arribar la policia i va començar, evidentment, la policia marroquina a perseguir-los amb gossos, amb machetes, amb pistoles, amb tot el que van trobar. Molta gent va morir, els van treure part, molta gent va quedar ferida i molta gent va viure. però els que van quedar ferits i morts els van retirar perquè les institucions, les ONGs i tota la gent que treballa allà no pogués realment veure-ho. I per sort, Liu, com t'hi ha... t'hi ha là, t'hi ha sent un moment, t'hi ha ici, com t'hi fa por?
Quand on commence à frapper les gens, souvent je viens me poser parce que d'abord je sais que j'ai un seul bras et je peux être fragile, je me couche. Le premier là où les gens sont et les autres amis qui ont un sentiment de protection pour moi viennent se pousser sur moi s'ils doivent recevoir des coups, que eux ils reçoivent les coups. Quand il commence à faire jour, on synthétise les gens, les blessés et consorts, et ça trouve que même si je suis blessé, où je suis épuisé, mais je ne suis pas blessé au même titre que les autres. Mmh. Parce qu'ils ont accepté d'encaisser les coups à ma place. Alors, c'est ce qui fait que j'ai été protégé et je me suis retrouvé là.
Okay.
Et on nous prend le matin, ceux qui sont moins blessés, y compris moi, on nous débarque pour une première fois à Rabat. Mmh. Arrivé à Rabat, j'essaie de contacter Marcel. Marcel me dit ne me contacte pas, essaie de tirer son convoi. Comme, c'est une expression qu'on aime dire là-bas, tire ton combat. C'est-à-dire, coupe contact avec moi et cherche à faire ton chemin. Alors, je suis rentré à nouveau avec le Malien en forêt. Cette fois-ci, j'ai dit que je ne vais pas vivre avec les Caméruniens parce que le temps que j'ai fait là-bas, leur nourriture, ce n'était pas la mienne. Une fois que je me rappelle, les premiers jours, j'avais de l'argent. J'ai donné mon argent pour gagner leur confiance. Je les aidais à trouver du manger. S'ils devaient faire quelque chose, j'achète pour eux. À un moment, j'ai dit que mon argent est fini parce qu'il ne me restait pas beaucoup. J'ai dit que c'est fini. Je leur ai vu tuer un chat pour cuisiner ça. Et ça m'a paru vraiment catastrophique. Je suis tombé malade 2 semaines. Je vis des biscuits et du lait. Alors j'ai dit que je ne mange pas ce qu'ils préparent. Et je pouvais vivre que du biscuit. Alors, la deuxième fois, je ne pouvais pas vivre avec eux. Je décide d'aller vivre avec les Guinéens parce qu'on a la même culture.
Ok. Et la première vegada que va estar amb el grup camerunès, ell tenia algo de diners, va anar pagant i comprant el menjar que per compartir-lo amb tothom. Però va haver un moment que el menjar es va acabar i van haver de menjar el que trobaven, des dels gossos fins a tot allò que van anar trobant. I a causa d'això ell va estar malalt i la resta de mes va menjar, no sé, biscrem, no sé si ho coneixeu, unes galetes de xocolata molt famoses a l'Àfrica. Durant un mes va estar alimentant-se només de galetes perquè si no podia acabar molt malalt. Llavors la segona vegada que va tornar a la foreta, al bosc, per tornar a saltar, en comptes d'anar amb els camaronesos després de l'experiència del menjar, se'n va anar, aquest cop sí, amb els guineans. I per què aquest cop va anar amb els guineans? Per què hi ha avec les guineans en ce moment?
On a la même culture, oui. On a la même nourriture.
Et tu connais qui?
Ils avaient déjà un peu, parce que le plus fort de la forêt m'avait dit que pendant 3 mois, il est en train de m'observer. Ça se trouve que c'est une personne que j'avais une fois pris en interview a Conakry, lors d'une manifestation.
O sigui que el rei dels guineans era una persona que era pròxima políticament a la Liu i el va acollir i el va protegir. Sí?
Aquesta voilà, rei. Il me prend un petit, il m'informe qu'il était en train de me surveiller, cela ne veut pas dire qu'il a totalement confiance en moi, mais il comprend que je suis dans le même but qu'eux. Alors, il me dit que je veux rester avec lui. Il prépare à manger, il leur demande de mettre là où on met pour lui, il m'invite à partager son plat. Nous sommes restés là-bas, moi, 2 semaines, je pense. Mm-hmm. Et une nuit, on nous demande de partir aussi à la barrière. Et ça a été plus catastrophique que la première fois. Je pars voir les barrières, je vois la hauteur, je vois comment je suis. Je dis que plus jamais je ne pourrai traverser ici. Alors, je me retourne un peu, on commence à frapper les gens. Je viens encore me coucher, les gens viennent se coucher sur moi. On les frappe. Le matin, on nous fait descendre à Fès. Et de Fès, on est allé dormir 1 mois et 2 semaines sans se laver, sans se brocher. J'étais trop épuisé. Et à Fès, on a trouvé un Sénégalais qui m'a assisté, m'a donné des vêtements. Je lui ai demandé de m'aider à trouver de l'eau pour prendre une douche et une broche à dents. On a trouvé ça, il m'a trouvé ça, on a passé la nuit. Au niveau d'une table d'un vendeur de cigarettes.
Voilà. Quan va estar amb els guineans, finalment 400 persones una nit es van aixecar i van anar una altra vegada cap a la barrera. Allà es van trobar amb uns 800 policies, ells deien que els doblaven en número. I va ser terrible, va ser catastròfic, diu que va ser molt més perillós que la primera vegada i quan t'atrapa la policia t'envia, et desplaça a Marroc, no et posen a la presó, et desplacen, no sé si coneixeu Marroc, però et desplacen a Oujda, et desplacen a Sidi Ifni, et desplacen a Fes. Doncs a ell li va tocar anar a Fes. I allà va estar mendigant i dormint damunt d'una taula de venda de cigarrets, una taula, i amb un senegalès que el va ajudar i que van poder també dutxar-se després de 2 mesos sense dutxar-se i rentar-se per fi les dents. I va ser una experiència realment dura. Ok, tu arriba a Fes i après de Fes...
On revient, le gars me dit qu'il avait un peu d'argent, comme tu l'as dit. Alors il dit qu'il va payer en partie pour moi, mais que je cherche à mendier pour pouvoir compléter afin de trouver le transport. Et il ne va plus jamais partir en forêt, il vient à Tanger. J'ai dit, c'était mon seul protecteur, j'ai dit que je pars avec toi, on vient à Tanger, on y reste, on dort 2 semaines dehors, et après je contacte des amis qui m'envoient de l'argent pour pouvoir payer une chambre, des choses comme ça. On a partagé la chambre, et finalement, il fallait trouver un moyen pour pouvoir traverser la mer avec les pirogues. J'ai essayé une quinzaine de fois, parce que je parle, maintenant les migrants ont confiance en moi, que je ne suis pas un local ou quelqu'un, un infiltré. Et on fait ça 15 fois, ça ne réussit pas. Et une fois, je connais quelqu'un qui connaît le grand trafiquant, à qui j'ai réussi à entrer en contact, je lui ai escroqué pour le grand trafiquant.
Ok, som a punt d'acabar. Però la idea també de Tanger, va viure molts mesos allà, va viure molts mesos en un pis d'immigrants. El fet és que va crear amistats, ell vivia en un lloc que pagava uns 100 euros mensuals, que havia d'aconseguir d'alguna manera, i que cada setmana, setmana i mitja, també venia la policia, els hi prenia tot i tornaven a començar. Ell, amb els seus amics, va 15 vegades va intentar travessar el mar amb una barca inflable que compraven en un traficant petit, no? I compraven la barca, arribaven fins a la platja, s'hi posaven i jo li deia, però tu què feies? Com remaves? I deia, no, jo era el rei. Jo em posava allà la barca i els altres remaven i vinga. Però hi havia un moment que tenia por, que realment el mar és molt perillós, i ell enviava un missatge d'ajuda a la policia o a les costes, a la policia de la costa, els agafaven i els tornaven a enviar una altra vegada a Oujda, Fes, a Rabat, a on fos, i havien de tornar a Tanger una altra vegada. Després de provar això 15 vegades, la 15a vegada es van adonar que compraven la mateixa barca que la policia els havia pres. I van dir, ostres, aquí hi ha un negoci bestial de compra-venta de la mateixa barca. I per això va decidir contactar amb els grans traficants, que diu ell, amb el gran màfia, que són els de les pateres.
Je lui fais croire que j'ai de l'argent a la banque, je lui donne toutes les promesses possibles, et finalement, il me met dans un bateau, je traverse, et je suis en Espagne.
Ok, finalment, diu ell, que va, és veritat, va enganyar, ell no tenia 3.000 euros, no els tenia. Com ho havia de fer per travessar? No volia tornar a la Foret, no volia tornar a provar-ho de la barca inflable i finalment va enganyar els traficants. Hi ha una manera que si algú vol saber, es fa un rebut, hi ha una de la màfia que truca per veure si aquell rebut vol dir que ja els diners estan dins del banc, ell va fer una trampa amb un rebut fals i finalment ell va arribar aquí. La nit abans de partir, tu parti a 22h, no? 22h per la nuit. 60 persones dintre d'una barca, ell al mig, a les 10 de la nit, i tu arriba a l'Espany, voilà, a 15h, com
s'ha? A 15h, mais arrivé au bord, je pensais que c'était 15 personnes au maximum qui venaient dans le bateau. Je voulais me retourner au bord, mais il y avait déjà la police marocaine, les consorts qui étaient là, ce sont eux qui font toute cette mafia. Ils avaient une machette.
Hi ha la policia i tot allà que els ajuden, no és que els ajuden, que els empenyen a posar-se a la barca i inclús m'explicava de companys seus que només començar amb la barca els havien tirat al mar, eh, ja? Vull dir que era perillós. Ella es va posar al mig amb una dona i un home aquí, la dona tenia un nen petit, ell va prendre el nen petit al mig i van estar des de les 10 de la nit fins a les 3 del matí, o sigui, 3, no de la matinada, eh? Les 3 de la tarda del dia següent amb la barca, sense moure's, sí? Amb tot fent-s'ho al damunt i sense cap més opció que anar navegant amb les onades, sí? Finalment la Liu va arribar allà.
Hi ha una cosa molt important.
Voilà.
Tout ce qui, si on vous annonce ici qu'il y a 15 morts dans la mer, sachez que moi je considère qu'il y a 150 morts. Et parmi les 150 morts, la mort, un accident, c'est une vingtaine de personnes qui sont. Sinon, pour le reste, ce sont la marine, la police marocaine qui les tue.
Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup, Saint-Histoire Dur, mais merci beaucoup pour écouter ça. J'espère qu'on peut réfléchir à tout ça. Merci, Marie.
Pour que moi aussi je puisse applaudir pour vous, j'aimerais bien que vous acceptiez d'applaudir par les pieds.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Combien de temps on a parlé tout ça?
Salut,
c'est
Maïté.
Salut,
c'est Maïté. Si on fait des vidéos, 3, 1 et 2, et voilà. Et c'est
vraiment
génial.
Ah oui,
merci. Très bien raconté, et voilà. Et écoutez, écoutez, on a trop mal bien, c'est génial. Bon, voilà, c'est dommage parce que j'ai cours maintenant à 4h. Et bon, parce que j'ai cours à Bagnola, si tu connais
Bagnola,
oui, c'est
juste à côté. C'est la ville de Pau.
De Pau, voilà.
Alors, c'est pas parce que je veux partir vraiment vite, mais voilà, est-ce qu'on peut se voir, je sais pas, après Noël, parce que tu as l'air raconté, voilà. Parce que c'est des
rêves, génial. Je travaille à l'école des
idiomes officiels. Voilà, école officielle de langue de Bagnola.
D'accord.
Et alors, les 13 ou les 14 février, on fait comme espèce de semaine culturelle. Ouais. Et alors, c'est des rêves, donc génial.
D'accord.
Si tu viens, ouais, parce que voilà, c'est
voilà, on peut génial. Parler, on peut discuter ça si tu penses qu'on devait faire la première part ou la deuxième part, ou tout, ça, tout c'est
conforme.
Quelle heure est-il maintenant?
Non,
C'est 15h30
et voilà, j'ai cours en
4h. Ah, ho hem fet perfecte, no?
Sí, ho hem fet clar. El seu cognom és Càmara?
Safia tu. Safia.
I per què escoltes Càmara?
Dadis Càmara és un dels governants. Dadis Càmara és un dels que va governar.
Per què hi ha tants càmeres?
A l'Àfrica, és un nom molt extens.
El meu cognom és Càmara.
Càmara.
Per això em fa gràcia que molts venien jo.
Marcel.
Sí.
Je dois partir.
Gracias.
Merci pour tout. Bon, enchanté. Merci.
Pas de chouette, il y a pas de problème.
Voilà.